Ils se réunissent une fois par mois dans les studios de CFM Montauban. Ils sont libraires et fiers de l'être. Ils ont beaucoup d'actualités. C'est l'émission La Voix de l'Alma. Avec aujourd'hui autour de la table Philippe Bernadou et Daniel Deloche de la librairie Deloche. Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis Maurice Beau de la bouquinerie Beau Livre, Place Nationale.
Voilà, vive l'Union.
Alors cette émission se découpe toujours de la même manière. Vous présentez ici un auteur et puis vos coups de cœur et puis enfin l'actualité de vos librairies. On commence avec vous, Philippe Bernadou, puisque c'est vous qui nous présentez aujourd'hui Emily Dickinson.
Oui, l'auteur du jour donc, est une poétesse américaine, ou états-unienne, plus exactement, du 19e siècle, qui est née en 1830 dans le Massachusetts, à Amherst, et qui est morte 56 ans après, dans le Massachusetts, à Amherst. C'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé de toute sa vie. Et voilà, c'est fini. Et
une courte biographie, donc.
Et pendant ce temps, elle a quand même écrit 1175 poèmes. Ça a été son activité unique et primordiale. Qu'elle, pour la petite histoire, qu'elle cousait par paquet de 20. Quand elle avait fini 20 poèmes, elle prenait ses feuilles de papier, elle faisait des petits cahiers qu'elle mettait dans un tiroir. Et autour d'elle, on savait qu'elle écrivait, mais elle n'a jamais été publiée de son vivant, ou presque jamais, puisqu'elle a publié 3 poèmes anonymement dans des revues, et un 4e a été publié sous son nom, mais contre son gré. Donc, quand elle décède, personne ne connaît cette dame, à part vraiment un petit cercle, et elle va devenir la fondatrice de la poésie moderne américaine, au même titre que Walt Whitman, dont on vient d'ailleurs de republier le Feuille d'herbe chez Corti. Pourquoi en parler aujourd'hui? Parce qu'elle est au cœur de l'édition, du moins française. Il y a 2 rééditions d'anthologies, 2 anthologies plus exactement, qui sont publiées. Une qui s'appelle « Lieu-dit d'éternité » en point poésie, en collection de poche, au Seuil. Une autre anthologie beaucoup plus importante qui s'appelle « Car l'adieu, c'est la nuit » en poésie Gallimard. Et troisièmement, une biographie lui est consacrée, ou plus exactement, ce n'est pas une biographie, c'est un texte poétique autour d'elle, signé de Christian Bobin. Ça s'appelle « La Dame Blanche », car Emily Dickinson était toujours habillée en blanc. Il y avait ce côté virginal, d'ailleurs on ne lui connaît pas d'amour, si ce n'est platonique et littéraire. Pour finir, je voudrais dire que je disais qu'elle était tout à fait inconnue. Ce n'est pas vrai, elle a eu un jour un second prix. Il s'agit, à la foire de son village, elle a eu le second prix de brioche au seigle.
Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, Emily Dickinson, à part écrire des poèmes?
Elle avait la chance d'être fille de sénateur. Donc, côté matériel, elle s'est occupée de ses parents, en fait. Ça a été une vie assez douloureuse, parce qu'ils étaient 2 sœurs et un frère. Et leur mère est tombée grabataire assez rapidement, donc elle s'en est occupée jusqu'à la fin de sa vie. Et son frère et sa sœur se sont mariés, elle est restée à la maison à écrire ses poèmes et à s'occuper de ses parents. Donc, elle aura survécu très peu d'ailleurs, de peu d'années.
Et alors finalement, pourquoi on la connaît? Qui c'est qui l'a découverte, cette poétesse?
C'est une amie d'enfance qui, à sa mort, a sorti ses cahiers et est allée voir les gens qui déjà la connaissaient un peu, des poètes qui avaient quelque influence, a commencé à la publier. Mais elle n'a été publiée que... sa première œuvre a été publiée 4 ans après sa mort, en 1890. Et en 1892, ce livre en était à sa 11e réédition.
Ouais. Ah oui. Il n'y a pas un petit extrait? On ne peut pas entendre une de ces... C'est des poèmes longs ou c'est des poèmes courts?
Ce sont des poèmes assez courts et qui sont très fractionnés. Ce n'est pas une poésie très facile à lire. Elle utilise beaucoup les tirés. C'est-à-dire, on sent que c'est une écriture qui marche au rythme de la pensée. Alors, ce n'est pas toujours facile à suivre. On va essayer quand même. Cela me frappait, chaque jour. Foudre aussi neuve que si la nue à l'instant se fendait pour vomir le feu. Cela me brûlait. Dans la nuit, et calcinait mon rêve, et se ravivait à mes yeux, à chaque retour du matin. Je croyais l'orage, chose brève, la plus folle, la plus vite, mais de ceci, la nature a perdu la date, elle l'a laissée dans le ciel.
Voilà, Emily Dickinson, donc 3 ouvrages. Hein, voilà. On redonnera les titres à la fin de cette émission. On passe au coup de cœur dans La Voix de l'Alma, cette émission sur CFM mensuelle sur l'actualité des libraires montalbanais. Par qui commence-t-on? C'est vous, Daniel Deloche.
Voilà, c'est moi. Ben, je vais vous présenter un tout petit livre qui vient de sortir aux éditions de Minuit, Bambiba, qui coûte 9,80 euros si ça vous intéressait, aux lecteurs peu pécunieux. Et il s'agit d'un ouvrage assez bizarroïde, puisque c'est à la fois un policier qui commence comme une comédie. On voit un drôle de bonhomme, un plombier, je ne pense pas qu'il soit polonais, mais enfin d'un pays de l'Est, qui a un comportement assez étrange parce qu'il espionne ses voisines, il les harcèle au téléphone, il leur entre dedans avec sa voiture, des choses aussi sympathiques que ça. La police l'interpelle et est au courant de ses agissements étranges. Et pourtant, ils sont d'une politesse exquise avec lui, lui qui se récrie, vous m'embêtez parce que je suis un étranger, mais j'ai ma carte de séjour. Et puis, la comédie tourne au drame, parce qu'en fait, ces dames qu'il regarde, qui est-ce, et où c'est qu'elle travaille, cette petite jeune fille, dans un bar pipe-show, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière cette histoire-là? Et petit à petit, on passe de la comédie au drame, mais ça reste un policier décalé, comme font les éditions de Minuit, mais fort intéressant. Donc, je vous recommande la lecture de Bambiba.
Et on notera au passage votre très bel accent du plombier portugais, j'allais dire, non, polonais.
Je fais encore mieux, cher monsieur.
Ni pravda.
Maurice, qu'est-ce que le yokai?
Ah voilà, alors moi je me suis plongé, je peux vous dire qu'il y a des périodes dans la vie où il faut des lectures légères. Et j'ai découvert à cette occasion, d'ailleurs je l'ai trouvé chez mon... libraire de l'angle de la place nationale. Non, je ne parle pas de moi, je parle de notre ami Hugues Dédier. On aura l'occasion de redévelopper. Eh bien, c'est un livre qui s'appelle Yokai. C'est le dictionnaire des monstres japonais. Et c'est tout à fait revigorant. Cet ouvrage est de Shigeru Mizuki. Et c'est un ouvrage qui se lit, qui se picore. Hein. Chaque monstre, chaque fantôme évoqué là est un petit poème en quelque sorte. On peut le prendre aussi comme des fables. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Le mot yokai désigne des phénomènes étranges, équivoques, ou plus spécifiquement des créatures effrayantes ou séduisantes, souvent les deux d'ailleurs. Hein. Donc c'est un univers très particulier. Moi qui suis toujours féru de contes, d'imaginaires, très locaux, et ben je me suis mis là-dedans comme un véritable ben de jouvence. Et comme l'a dit l'écrivain Tanizaki Junichiro en 33 dans son célèbre Éloge de l'ombre, la lumière électrique est trop forte et ne laisse pas de recoin dans l'ombre. En d'autres termes, l'habitat naturel des êtres des ténèbres s'en trouvait menacé et les yokai risquait de connaître le destin des créatures en voie de disparition. Et il faut attendre les années. Et en effet, ce genre littéraire très particulier, qui date du Japon médiéval, etc., allait tout d'un coup disparaître justement avec la disparition de l'ombre. Et dans les années 1970, il y a un renouveau, un regain d'intérêt qui va être confirmé dans les années 90 avec ce phénomène qu'on appelle le manga, qui va mettre un éclairage nouveau sur ces personnages. Et je dois dire que c'est un petit livre qui tient dans la poche.
C'est le premier volume, parce que je vois que c'est de A à K.
Voilà, et il y aura sans doute ensuite jusqu'à Z, je présume. Mais c'est quelque chose de très vivifiant et qui peut être un petit compagnon de route pendant quelque temps. Et je vous promets que ça divertit, ça séduit, ça effraie. Et ça se partage, voilà.
Yokai, quelle édition?
Alors, c'est les éditions Pika.
La belle maison, Daniel Deloche.
Alors, la belle maison, c'est encore une fausse comédie. Je vous prends pas en traître, moi, mais c'est pas ma faute si les auteurs le sont. Hein. La belle maison, c'est l'histoire d'un petit village qui se la pète, si vous me permettez l'expression, et surtout autour d'un maire extrêmement dynamique et généreux qui aurait pu être communiste s'il n'était pas d'autre bord politique, tellement il est généreux. Donc. Et qui, dans ce village, il y a une tâche, c'est un couple de miséreux, bien pratique évidemment pour les travaux des uns et des autres, mais qui occupe un taudis sur un terrain communal où il pourrait y avoir de bien plus belles réalisations. Donc tout le village s'y met et en secret leur prépare une belle maison. Et malheureusement, ce n'est avec les meilleures intentions du monde, des fois on fait beaucoup de mal. Et ce couple de miséreux qu'on découvre petit à petit au fil du texte, Constance et Mortimer va peut-être pas tellement apprécier la belle surprise que leur prépare ce village si gentil. En cette période d'élection, c'est une lecture fort revigorante et ce nouveau Clochemerle a des échos qui des fois peuvent faire sourire, voire rire carrément. Donc je vous conseille la lecture de Frans Bartelt, La belle maison, qui vient de paraître aux Dilettantes et qui coûte 15 euros.
Votre deuxième coup de cœur, Maurice Beau, c'est L'amour livre.
Ah, L'amour livre, alors c'est un texte qui date maintenant de pas mal d'années. Texte de Marcel Tourelle. Marcel Tourelle, bon, va parler à beaucoup de Montalbanais, aux gens de la région, profession. De la profession. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. On pourrait en faire un roman, même plusieurs romans. Il y a même une thèse qui a été tenue par, je crois, Dominique Porté, un autre régional de l'étape, qui a été faite sur sa vie, puisque c'est quelqu'un qui a été, à un moment donné, très actif syndicalement et politiquement pendant et après-guerre. Ou du moins pendant la guerre, entre autres. Avant, pendant et après, excusez-moi. Ce monsieur qui a été fait pour devenir bouquiniste, comme moi à peu près pour devenir évêque, ce monsieur a eu comme ça des parcours de vie très particuliers. Et c'est comment il est venu à ce métier du livre, comment cet homme est rentré comme ça dans la carrière du livre, juste après-guerre. C'est phénoménal, c'est un souvenir. Alors, souvenir d'un bouquiniste de province, c'est quelqu'un qui a repris haut et fort alors que tout le monde se disait des libraires d'anciens, etc., etc. Lui, il a gardé cette appellation très, très modeste, très humble de bouquiniste, il l'a revendiqué. Et d'ailleurs, il a créé une dynastie, puisque derrière lui, son fils et maintenant son petit-fils ont pris la relève. Et dans L'amour livre, c'est une révélation. Oh, il n'a pas la prétention d'avoir un grand style littéraire, mais par contre, c'est des anecdotes, c'est un petit peu, on voit quelqu'un qui va se construire et qui va devenir un grand bonhomme autour dans son métier. Voilà. Alors moi, je lui rendrai hommage à un autre moment, parce que je l'ai connu très tard et très peu, hein, c'était à la fin de sa vie, et en fait je l'ai vraiment découvert et redécouvert au travers de cet écrit et d'autres écrits qui ont été faits sur lui, mais c'est un rendez-vous que je donne pour plus tard. Donc je recommande L'amour livre de Marcel Tourelle, en vente dans la bonne librairie, c'est-à-dire vous en trouverez encore quelques exemplaires à la librairie de Loche. Voilà.
Vous écoutez CFM, La Voix de l'Alma, et c'est l'heure maintenant de cette lecture que nous propose Philippe Bernadou.
La barque bleue. La barque avait été repeinte. Elle avait désormais fière allure. C'était l'histoire d'un coup de foudre. Dès qu'il l'avait vue ce soir-là, il l'avait prise en sympathie, si fragile, couchée sur le flanc, crucifiée par le mauvais temps, vraiment en piteux état. Il avait décidé de la sauver. Il n'eut pas de mal à convaincre son propriétaire de la lui céder. Il savait la barque dangereuse et il y avait beaucoup à faire. « Tu la prends à tes risques et périls, je m'en lave les mains », l'avait-il prévenu. Mais il en fallait plus pour le décourager. Il marchanda, car dans ces régions, ne pas discuter les prix frise à l'impolitesse. Et après quelques échanges amusés, ils se frappèrent dans la main, marché conclu. Tout était pour le mieux, chacun pensait avoir fait une bonne affaire. En fait, il désirait offrir ce modeste esquif à son épouse, mais il voulait que ce soit une surprise. Aussi, il transporta l'embarcation une nuit et se mit à la restauration dès le lendemain. Dans son atelier Capharnaüm, il n'eut pas de mal à dissimuler la vieille carcasse sous des planches et plateaux bien secs de cèdre, olivier ou genévrier. Ce n'était pas un spécialiste de bateaux, mais il s'y connaissait en essence noble et savait manier l'herminette. Il fallait refaire des couples, les traves avaient souffert et les chouages sur le sable avaient eu raison de quelques bordages. Patiemment, jour après jour, la chaloupe ressuscitait. Le calfatage était réussi. Il employait du bitume de Judée d'excellente qualité, ni trop liquide ni trop visqueux, qui masquait bien les stigmates du temps, éraflures profondes et traces de clous. Le ponçage s'avéra plus ingrat et plus fastidieux que prévu, mais rien n'était trop beau pour son épouse, une sainte femme, si discrète, si modeste. La seule idée de la voir sourire effaçait sa fatigue. Il ne pouvait s'y consacrer pleinement car ses clients se plaignaient que leur chantier n'avançait pas et que l'hiver serait bientôt là. Mais enfin, au bout d'un bon mois de travail, il avait fini, il avait fait des miracles. Il avait pris l'habitude pour les anniversaires d'offrir des petits présents à tout le monde, modeste lot de consolation qui adoucissait le chagrin de ceux qui, petits ou grands, ne célébraient pas ce jour-là leur naissance. Pour le 10e anniversaire de leur fils unique, fêté au solstice d'hiver, il était particulièrement fier de son cadeau. Il appela son épouse et la guida vers l'atelier. « Myriam, je t'offre cette barque bleue. On l'amarrera au ponton. Nous pourrons ainsi aller chercher le petit, si d'aventure il s'entraîne encore à marcher sur le lac. » C'est de Jean-Luc Donnac, La barque bleue, publiée aux éditions Le Luy de France, ça vient de paraître. Jean-Luc Donnac est professeur d'anglais au lycée Bourdel. Et toutes ces nouvelles qu'il appelle « histoires drôles, improbables ou noires » sont de cette qualité d'écriture, c'est-à-dire.
Et nous arrivons maintenant à l'heure de vos actualités, et je sais que elles sont riches.
Au cas où vous ne l'auriez pas noté en vous promenant en ville, à la ville, eh bien, au 1, 7, 17 Place Nationale, maintenant, nous avons ouvert la commune Livre. Découvert, puisque maintenant nous avons trois librairies qui sont regroupées autour de ce haut lieu historique, cette grande place historique. Et d'ailleurs, au passage, on peut noter que la ville de Montauban est la première du Grand Sud-Ouest à avoir trois librairies indépendantes, domiciliées, autour de sa grande place historique, autour d'une place. Voilà. Avec la proximité des autres librairies, bien entendu, eh bien, il y a de quoi faire une petite balade livresque tout à fait agréable en cœur de ville. Donc, maintenant, nous avons le comptoir de Sildavi, qui est au 1 Place Nationale, la librairie Beau Livre, la bouquinerie, donc, qui est au 7 Place Nationale. Et bien sûr, le jeune public peut retrouver
le
bateau livre au 17 Place Nationale. Voilà.
Eh bien, moi, j'enchaîne avec le concours de la Compagnie des écrivains à l'occasion du Printemps des poètes, dont je reparlerai plus tard. La Compagnie des écrivains du Tarn-et-Garonne organise, comme tous les ans, un concours de poèmes pour lequel le public peut voter. Et vous pouvez donc venir dans nos librairies, au syndicat d'initiative et d'autres endroits pour faire vous-même un choix de ces poèmes de façon à faire primer quelqu'un du coin. Vous avez trois prix cette année, le prix jeune, le prix collégien et le prix adulte, parce qu'ils ont eu vraiment beaucoup de poèmes sur le thème de l'éloge à l'autre. Par ailleurs et parallèlement, nous, l'ALMA, c'est-à-dire tous les libraires de Montauban, nous organisons, comme tous les ans aussi, un affichage de poèmes. Ça peut être exactement les mêmes. Mais comme ils seront affichés après le concours, vous êtes tout à fait libre d'y mettre votre nom si vous écrivez. Les contraintes, c'est 20 lignes maximum et dactylographiées, s'il vous plaît. 20 lignes parce que pour un affichage, ça serait trop long si c'était plus. Et comme tous les ans, donc, les rues de Montauban seront pavoisées de vos poèmes que vous avez à déposer, s'il vous plaît, très rapidement, de préférence avant le 23 février, et chez le libraire de votre choix, Place Nationale ou ailleurs. Et l'affichage sera pendant le Printemps des poètes, du 4 au 15 mars. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les déposer après, n'est-ce pas ?
Pour rester à la Compagnie des écrivains, parler de la lecture mensuelle qu'organise la compagnie chaque mois, le troisième mardi de chaque mois, une fois à la librairie de Scribe et une fois à la librairie de Loche. Donc le 20 février ce mois-ci, de 17h30 à 18h30, ça sera à la librairie de Loche, et Jean-Paul Damaggio présentera et lira l'œuvre de Manuel Vasquez Montalban. Voilà.
La mairie organise des journées Olympes de Gouges qu'elles veulent pérenniser le 5 et 6 mars 2008. Ça va tomber donc en même temps que le Printemps des poètes, mais vu la date de la journée de la femme, peut-être que malheureusement on est amené à cette collusion, hélas regrettable. Il y aura deux journées fortes avec des lectures dans les écoles ou à la bibliothèque, mais je vais vous parler très rapidement des soirées où il y aura la présence de libraires. De 18h30 le mercredi 5 mars à 19h30, une conférence de Marie-Rose Cutrufelle, qui vient de publier, une Italienne, qui vient de publier un ouvrage romancé sur Olympe de Gouges et toute cette période. Une soirée avec une pièce de théâtre qui s'appelle « Vivre ». et qui est les voix de plusieurs femmes avec plusieurs comédiens. Le lendemain, l'après-midi, il y aura une conférence de Nicole Pellegrin, représentante du CIFA, et le soir, une conférence avec Benoît Tegroult, excusez du peu. Dans la journée du jeudi, vous êtes invité dans les librairies à une mini-rencontre, petit déjeuner à la librairie de Loche avec donc Madame Coutroufeli et peut-être Benoît Tegroult et un apéro de 11h30 à 12h30 avec Madame Coutroufeli et Madame Benoît Tegroult, là au Scribe. Et bien sûr, en même temps, tous les libraires feront des tables de non seulement de poésie, mais des tables féministes ou féminines et olympiennes. Et je laisse la parole à Maurice pour nous dire ce qu'il nous concocte.
Eh bien, je tiendrai table d'Olympe, c'est-à-dire toutes ces, ce seront des tables ouvertes, si vous voulez, avec des littératures donc féminines, dans effet de femmes, des écrits divers de femmes, ma foi, libres et engagées, ce qui est souvent peut paraître paradoxal, mais marche toujours de pair en règle générale. Voilà, donc là, ce sera une longue table avec un choix qui sera détonnant depuis Doris Lessing, par exemple, qui est prix Nobel de littérature cette année, jusqu'aux écrits d'Olympe, etc. Et entre-temps, toutes ces partisanes qui ont fait quand même avancer grandement la cause des femmes. Et c'est un chemin qui se poursuit, je crois.
Dans le cadre du Printemps des Poètes, on vous proposera des rencontres avec deux poètes kazakhs. C'est l'association Confluence, la ville de Montauban et l'Alma, qui font venir, car ils seront là, Somijda Isariev et Nurolan Orazalin. Alors qu'est-ce que c'est des poètes kazakhs? C'est des poètes du Kazakhstan, il faut le dire. Ce pays de mystère, il n'est pas sur la carte du monde, dit Somijda Isariev, donc ne le cherchez pas. Ça se passera le vendredi 7 mars à 21h à l'ancien collège, Maison de la Culture de Montauban. Il y aura des lectures de poèmes de François-Henri Soulier et Maurice Petit, accompagnés par Dimitri Tokarev au violoncelle. Et donc, rencontre avec les poètes en chair et en os.
Et pour finir, Maurice Beau, vous nous livrez l'invité de Lettres d'automne.
Je crois que tous les libraires se réjouiront du choix de Lydie Salveir, qui est cette grande dame qu'on aura l'occasion de découvrir pour le prochain festival littéraire Lettres d'automne, hein, qui sera donc en fin d'année. Lydie Salveir, qui est une psychiatre, une écrivaine talentueuse,
toulousaine,
et qui plus est a choisi, je pense, son nom d'écriture. Ça doit être très très lié à ce village d'Ariège où ses parents sont arrivés au camp du Vernet, camp tristement célèbre. Nous avons eu celui du camp de Jude en Tarn-et-Garonne à Sept-Fonds. Et c'est, elle aussi est très, très imprégnée de cette culture aussi d'exil. Voilà.
Bon voilà, c'était l'actualité de l'ALMA. On va quand même faire un tour de table pour présenter à nouveau les ouvrages dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Philippe Bernadou.
Nous avons parlé d'Emily Dickinson à l'occasion de la parution de deux anthologies de poèmes « Car l'adieu, c'est la nuit » aux éditions Poésie Gallimard Poche, bilingue. Et lieu-dit l'éternité chez Point Seuil, Poche aussi et bilingue, et de la biographie de Christian Bobin, de l'essai de Christian Bobin sur Emily Dickinson, qui s'appelle La Dame Blanche chez Gallimard. J'allais oublier la lecture faite autour du texte de Jean-Luc Donac, La Barque Bleue, qui est tiré du recueil, qui s'appelle aussi La Barque Bleue, aux éditions Le Luy de France.
Daniel Deloche, Bambibar.
Bambibar d'Yves Ravé, aux éditions de Minuit. Et La Belle Maison de Franz Bartelt aux dilettantes.
Et Maurice Beau.
Et j'ai eu le plaisir de vous parler de Yokai, dictionnaire des monstres japonais, de Shigeru Mizuki, chez Pika Édition, et L'Amour Livre de Marcel Tourel, souvenir d'un bouquiniste de province, chez Media Édition.
On se donne rendez-vous au mois prochain.
Avec plaisir.
Merci Daniel Deloche, merci Philippe Bernadou, merci Maurice Beau. À dans un mois.
Adicias.